Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Pierre Gahungu.
Vous êtes bien sur la radio Indamba, Agathe Kakawe. C'est le moment du journal de ce mardi 16 janvier 2024. Tout d'abord les titres. Un tournant dans l'affaire des plus de 200 militaires sous sanction pour avoir refusé de se battre contre le M23 au Congo. Ils ont été transférés aujourd'hui même vers les prisons de Lutana, Lomongé et Ngozi. Ils étaient jusque-là détenus au camp Muzinda et à la police militaire en mairie de Bujumbura. Des fruits pourris entre les mains de leurs vendeurs, faute de clients. C'est l'une des conséquences que des commerçants du marché d'Ikotego dénoncent depuis la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et puis le procureur de Makamba garde une dent contre les détenus du cachot du parquet pour avoir dénoncé ses pratiques de corruption. Il les a punis en leur privant pratiquement de tous les droits. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Indamba en direct sur le www.indamba.org.
Les conséquences liées à la mesure du gouvernement burundais de fermer les frontières qui mènent vers le Rwanda commencent à se manifester au sein de la population burundaise. Exemple, ce sont les commerçants qui vendent des fruits au marché d'Ikotego. Ils disent que depuis la mise en application de cette décision, ils travaillent à perte car certains de ces fruits pourrissent par manque de clients. Ils demandent au gouvernement burundais d'annuler la décision pour l'intérêt du peuple burundais. Alexandrine Keza, reportage.
Ces commerçants disent que depuis la décision du gouvernement burundais de fermer les frontières avec le Rwanda, ils enregistrent beaucoup de pertes. Les marchandises vendues avant au Rwanda ne reçoivent plus de clients. Écoutez le témoignage d'un commerçant de fruits œuvrant au marché communément appelé Kotebu dans la mairie de Bujumbura.
Et les conséquences de la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda n'ont cessé de se manifester. Et c'est le truc pour nous et des commerçants. Moi, par exemple, je suis vendeur de fruits au marché communément appelé Kotebu ici à Bujumbura. Mon client était des Rwandais. Quand il venait, il raflait tous les fruits. Et à un bon prix. Maintenant que cette frontière est fermée, il ne venait plus. Nos produits ne s'écoulent plus comme avant. Il arrive même que ces fruits périment. Et des fois nous les jetons à la poubelle. Les Burundis, suite à la crise économique qui s'écoule au pays, il y en a peu qui arrivent à acheter ces fruits parce que des fois ils sont chers.
Il demande au gouvernement burundais de lever la mesure pour l'intérêt de la population.
Ce que je demanderai à l'État, c'est de réouvrir cette frontière. Parce que beaucoup de gens vivent grâce à cette circulation de biens et de personnes entre nos deux pays. Nous demandons que ces problèmes qui les divisent, ou ces problèmes qui les opposent, qu'ils cherchent une solution durable afin que la circulation des personnes soit rétablie.
En guise de rappel, cette mesure a été prise le 11 janvier de cette année par le gouvernement burundais accusant le Rwanda d'héberger des ennemis du Burundi. Une décision que plus d'un réfute, privilégiant plutôt la voie diplomatique pour régler le conflit.
Et puis en bref, plus de 200 militaires qui étaient détenus au camp Muzinda et à la police militaire en mairie de Bujumbura ont été transférés ce mardi 16 janvier vers d'autres lieux de détention. Nos sources au sein de l'armée indiquent qu'ils ont été conduits dans deux camions entre 11h et midi. Les mêmes sources précisent qu'ils ont été acheminés vers les prisons des provinces Lutana, Lumonge et Ngozi. Rappelons que ces militaires avaient été arrêtés au Nord Kivu en RDC et ramenés à Bujumbura pour avoir refusé de combattre contre le mouvement M23. Rappelons que les militaires qui étaient incarcérés au camp Chibitoke pour la même raison ont été conduits vers une destination non encore connue depuis le 16 décembre dernier. Poursuivons avec cette grogne des détenus du cachot du parquet de Makamba. Ils disent qu'ils sont privés de visite dès l'heure, ainsi que d'autres droits, depuis la dénonciation de pratiques de corruption du procureur de province. Ils demandent au ministère de la Justice de leur venir en aide pour que leurs droits soient respectés. Le point avec Joséphine Jones Mundimana.
Selon les proches des détenus du cachot du parquet de Makamba, ces détenus de ce cachot vivent dans de très mauvaises conditions. Ils expliquent que depuis des révélations sur l'effectif accablant du 27 décembre dernier, le parquet de Makamba a pris des mesures sévères envers les détenus. Selon nos sources, actuellement, aucun détenu n'est autorisé à sortir du cachot, quelle que soit l'infraction qui pèse à sa charge. Les proches des détenus disent que les détenus avaient la permission d'accueillir leurs visiteurs dans une petite salle de ce cachot, mais que pour le moment, personne parmi les visiteurs n'a accès à cette salle. Les visiteurs non seulement restent dehors et donnent ce qu'ils amènent à travers des grillages, des fenêtres, mais aussi ils laissent à l'entrée leurs appareils téléphoniques aux policiers. Selon des sources de ce cachot, les prisonniers venus des milieux éloignés pouvaient s'organiser en achetant des denrées aux commerçants qui les amenaient dans cette maison pénitentiaire. Actuellement, ces petits commerçants qui les amenaient n'ont pas droit à ce cachot, ce qui les pousse à partager la nourriture de ceux qui ont des familles qui leur en apportent. Selon les détenus, cela est dû au fait que le procureur de la République à Makamba, Claver Samushimike, et le président du tribunal de grande instance de Makamba, Aloïse Nibishimigwa, veulent se venger contre les détenus après des révélations qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui montraient leurs conditions de vie dans ce cachot. Signalons que ce cachot, qui n'a que la capacité d'au moins de 50 détenus, toutefois y contenait près de 150 détenus jusqu'au 27 décembre dernier. Ces révélations ont fait qu'en date du 27 décembre, le procureur Claver Samushimike a embarqué tous les détenus vers la prison de Murembwe en province de Mongue pour échapper à une probable inspection. Sur ces lamentations des détenus, la radio Inza Mbagate Kakawe n'a pas encore trouvé par téléphone ses responsables si haut cité pour connaître leur version sur ce dossier.
Merci Joséphine Jones Mundimana. Parlons toujours droit de l'homme. Le directeur général des affaires pénitentiaires est appelé à respecter la loi et de ne plus persécuter la journaliste Lauriane Ilangabillé et le directeur de la prison de Bouvanza. C'est un appel du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Marie-Louise Balichako lui dit suite à des propos peu rassurants utilisés par Pierre Claver Miboulo à l'endroit de ces deux personnes, ainsi que d'autres discours diffamants de membres du personnel de la direction générale des affaires pénitentiaires à l'encontre des deux mêmes personnes. Elle demande que les droits de Floriane Ilangabillé soient intégralement respectés en tant que personne humaine. Suivez Marie-Louise Balichako.
Si le respect de la dignité et de la valeur de Floriane Ilangabillé en tant que personne humaine n'est pas de la responsabilité de ceux qui sont en charge des affaires pénitentiaires et de ce personnel qui se plaint contre le directeur de la prison de Bouvanza pour avoir laissé Floriane Ilangabillé comparaître au tribunal bien habillé, qu'il n'est pas suffisamment brutal et agressif à son égard pour la faire souffrir comme eux le voudraient, comment ferait-il véritablement le travail qui leur est confié ou est-ce qu'il cherche à plaire aux gouvernants? C'est possible. Le mensonge ne prévaudra jamais sur la vérité et le mal ne vaincra jamais le bien. Floriane Ilangabillé est torturée et maltraitée aujourd'hui pour s'être acquittée de sa mission de journaliste et servi sa patrie en cette qualité. Le jour viendra, certainement, où justice sera faite à Floriane et qu'elle recouvrera sa liberté. Ce directeur des affaires pénitentiaires devrait se ressaisir, ne pas chercher à plaire à ses dirigeants en hypothéquant son avenir, qu'il reprenne conscience et considère plutôt les textes et la loi qui le gouvernent, qu'il fasse son devoir et ne se fasse pas passer pour un juge qui impose des peines aux détenus alors que cela n'est pas de sa compétence. Quant à ceux qui s'offusquent que Floriane ne manifeste pas sa souffrance et sa peine, ils devraient se reprendre et savoir que tous ces traitements cruels, inhumains et dégradants et imposés aux citoyens comme Floriane et Ilangabillé ne les feront pas perdre leur conviction qu'ils sont dans la vérité et que celle-ci finira par triompher. Nous, en tant que Inamahoro, nous voulons encourager Floriane Ilangabillé qu'elle se fortifie et qu'elle tienne ferme. Nous continuerons à lancer nos appels aux responsables de la loi, de la justice et des droits de l'homme, qu'ils se ressaisissent et laissent la loi parler, qu'ils la respectent et l'imposent, que la justice et les droits humains soient respectés dans notre pays. Tel que les choses se présentent, si ça continue, il y a risque de sombrer dans le chaos. Ce qui est en train d'être fait à son directeur de la prison de Bobanza à cause de Florian Ilangabiye est une preuve évidente que ceux qui sont en charge du pays n'ont pas de principe incontournable, de sorte qu'une personne peut être victime du bien qu'il fait, même s'il n'a violé aucune loi.
C'était Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro.
Inzamba.
Il faut créer un vrai marché financier et légaliser les différents acteurs qui y interagissent. C'est un appel lancé par l'ONG locale Parsem. C'est suite à la décision de la Banque centrale du Burundi de suspendre les activités des associations de microcrédit, communément appelées CILC ou Ibirimba. Faustin Dikumana, directeur national de la Parsem, recommande au gouvernement de suivre l'exemple d'autres pays qui disposent d'une bourse de valeur, un marché de vente et d'achat d'actions et d'obligations qui permet de transformer l'épargne des ménages en ressources pour les entreprises. Suivez.
Aujourd'hui, si on analyse la structure du secteur bancaire et financier au Burundi, on voit qu'il est largement dominé par les banques commerciales. Or, les banques commerciales et le système de banque commerciale classique n'est pas un système moderne de donation de crédit ou de collecte de l'épargne. Les dépôts ne sont pas bien rémunérés, tout le monde le sait. Dans les banques commerciales, il y a beaucoup plus de dépôts à vie. La rémunération n'est pas là comme le voudraient les déposants ou les épargnants. Accéder au crédit dans les banques commerciales, il y a beaucoup de procédures. Et ces banques commerciales privilégient les grandes entreprises, les grands commerçants, l'État. Donc les maisons structurées, au Burundi, la grande part de l'économie est causée par l'économie informelle. Il y a beaucoup de gens qui perçoivent des revenus, mais qui sont complètement exclus du secteur bancaire et financier classique. Donc les institutions de microfinance ne couvrent qu'une faible partie du marché. Donc j'imagine que quelque part, le système bancaire et financier au Burundi, le système financier au Burundi n'est pas modernisé comme il est. Pour faire face à cette situation, il faut créer le marché financier et légaliser ses demandes. Parce que le marché financier offre une grande diversité des produits financiers. Le marché financier met en contact direct les offreurs de capitaux et les demandeurs de capitaux. Sans une structure d'intermédiation lourde, comme le secteur bancaire et financier, c'est une confrontation de l'offre de la demande, les offres de capitaux, les demandeurs de capitaux, ou bien la bourse de valeur, aussi les actions. Il faut des grandes entreprises, des sociétés anonymes qui permettent aux gens d'épargner, de placer leur argent dans les entreprises. Si on crée une bourse de valeur immobilière, un marché financier efficace avec ses demandes, mais avec une réglementation efficace, ça pourra permettre à ce que les gens exclut du secteur bancaire et financier de pouvoir placer leur argent moyennant une rémunération liée à la confrontation entre l'offre et la demande et ceux qui veulent rapidement des capitaux pour faire des activités de façon ponctuelle, il faut qu'ils aient un financement immédiat et disponible.
On reste toujours dans le secteur de l'économie. Les agriculteurs qui produisent le maïs en province Kayanza ont le sourire. Ils se disent satisfaits du prix du kilo de maïs fixé par le gouvernement à 1700 pour le cultivateur. Mais les consommateurs, eux, estiment que ce montant est exorbitant compte tenu de la pauvreté qui sévit dans le pays. Les détails avec Eddie Claude Nenina Atwe.
Selon nos sources recueillies au sein de certains agriculteurs de la province Kayanza, ils disent qu'ils ont bien accueilli le nouveau prix du kilo de maïs qui a été fixé par le gouvernement compte tenu des moyens énormes qu'exige la culture du maïs. Toutefois, ils demandent au gouvernement de toujours disponibiliser à temps des intrants pour éviter des retards pendant la saison culturelle.
Moi, je l'ai bien accueilli parce que le gouvernement de notre parent, il a bien analysé toutes les voies possibles car la culture du maïs demande beaucoup de moyens qui s'accroissent jusqu'à la récolte. Il exige beaucoup de moyens financiers et humains. Franchement, nous, en tant que cultivateurs, nous sommes vraiment satisfaits. Par contre, nous, comme cultivateurs, nous demandons au gouvernement de disponibiliser à temps des intrants agricoles pour ne pas enregistrer des retards pendant les saisons culturelles prochaines, comme nous l'avons déclaré.
Selon les consommateurs, ce prix est extrêmement élevé compte tenu de la situation de misère dans laquelle vit un certain nombre de Burundais. Ils estiment que ce prix devrait être revu à la baisse.
Je l'ai accueilli tel qu'il nous a été présenté parce que je n'ai pas de choix. Je suggère à ce qu'il soit fixé à 1200. Aujourd'hui, vous constatez avec moi qu'il n'y a pas d'argent. Si tu as travaillé pour un montant de 2500, tu ne peux même pas t'acheter de patates douces pour nourrir 3 à 4 enfants. C'est ainsi que je suggère qu'il soit revu à la baisse.
Ces agriculteurs demandent au gouvernement de soutenir le développement d'autres cultures comme la patate douce et le manioc en disponibilisant des boutures, car ces cultures font vivre une grande majorité des Burundais.
Eddie Claude Ninadri, et pour terminer, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a bien signé ce lundi son entrée en lice contre la Gambie. Les Lions de la Teranga l'ont emporté face à leurs voisins, les Scorpions de la Gambie, sur un score de 3-0. Les champions d'Afrique en titre se rassurent et peuvent aborder en toute confiance le choc de la deuxième journée face au Lion indomptable du Cameroun vendredi prochain. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, a été tenu en échec par la Guinée avec le score final d'un but partout. Les Camerounais sont donc obligés de battre vendredi le Sénégal pour espérer une bonne position dans le groupe C. Enfin, ce lundi, pour la première journée du groupe D, l'Algérie a été elle aussi piégée par les Palancas Negras de l'Angola par un but partout. Là aussi, les Fenex doivent désormais se remobiliser pour une qualification au 8e de finale. L'Algérie qui affronte le Burkina Faso samedi lors de la deuxième journée du groupe D. C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.